France Culture.
France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Il y a autre chose à montrer que l'amour, l'érotisme. Qui dit cela ? L'amour n'est qu'un camouflage de l'érotisme qui est à la base de toutes les actions de l'homme. Qui dit cela ? La femme reste la grande séductrice. Je lui accorde un rôle plus mystérieux, plus noble, pas tant celui de perpétuer la vie, c'est très beau, mais c'est dramatique, c'est pathétique, mais de retenir l'homme sur la terre, à la terre. Ainsi parlait l'écrivain Michel de Gelderode en 1951 au micro de Roger Iglesias. Michel de Gelderode, auteur dramatique d'origine flamande, mais d'expression française, né en 1898, mort en 1912. Il parlait de l'érotisme. Oui, que disait-il en 1951, donc, sur la radio France 4 Haute Fidélité, il disait « J'ai l'impression que ce sont de braves gens qui m'écoutent et qu'il n'y a pas de puritains. La volupté n'est qu'une torture abrégée. C'est un peu scabreux », ajoutait-il. C'était le 2 décembre 1951.
Le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente, avec le concours de l'Institut national belge de radiodiffusion, Images et visions d'un solitaire, confidence de Michel de Gelderode recueillie par Roger Iglesias. Au cours de cette émission consacrée à l'érotisme, vous pourrez entendre des extraits de La farce des ténébreux, interprétés par Yvette Etiévant et Jean Daguerre. Production de Roger Iglesias et Alain Truta. Dans Sortie de l'acteur, vous avez porté sur votre théâtre un jugement qu'il nous faut souligner. Voici l'échange de répliques. L'amour tient peu de place dans vos pièces. On y voit pourtant des femmes. Quelles femmes, cher auteur, on meurt trop dans vos pièces et on n'y aime pas assez. Je comprends, bien qu'un peu tard. En effet, l'amour est inexistant dans votre œuvre. Le seul couple d'amoureux véritable est celui d'Adrian et de Jusémina de la Ballade du Grand Macabre. Mais ils ne traversent la scène que pour aller s'enfermer dans un tombeau où ils vont s'accoupler. Par contre, l'érotisme est constant, dans chaque pièce. Pourrait-on dire qu'il est la sève de votre théâtre ?
Il faudrait s'entendre. Vous dites amour, érotisme. C'est vrai, l'amour, comme on l'entend, elle est accoutumée. On n'en trouve pas chez moi. Je suis incapable de parler de cet amour. Amour des petits bourgeois, amour de gens quelconques, qui... amour d'aristocrate ou de pseudo-aristocrate, comme nous l'avons vu chez Porterich, Bernstein, Bataille, Hervieux. Tout cela m'a profondément dégoûté. Et d'ailleurs, tout cela est mort depuis longtemps. Cet amour-sentiment que le cinéma nous verse sur la tête... Non. J'ai pensé qu'il y avait autre chose à montrer. Et vous avez prononcé le mot érotisme, c'est plus juste. Ce qu'on appelle amour joliment, gentiment, amour sentimental, n'est qu'un camouflage du grand rayonnement de l'homme, de l'érotisme qui est à la base de presque toutes les actions de l'homme. Pourquoi ne pas le dire ? Je ne puis pas comprendre que cet amour, comme on dit, soit le prétexte de tous les spectacles. Ce n'est pas possible. Il y a bien autre chose, ne serait-ce que le renversement de l'amour. La haine, par exemple, étudiée en elle-même comme passion, et comme passion très vivante et même constructive. Mais revenons à votre question. Vous semblez dire que les femmes qui passent dans mon théâtre ne sont pas normales. mais il n'y a aucun intérêt à montrer des êtres normaux. Ou alors, oui, il est montré dans un conflit anormal, dans des circonstances exceptionnelles. C'est ce que je fais. Les gens qu'on voit dans mon théâtre se paraissent être des monstres par leur comportement. Mais en fait, je ne fais que révéler ce qu'il y a au fond des hommes et des femmes dans des circonstances exceptionnelles. Ces monstres sont partout. Ils sont en nous. Ne pensez pas que la nature fabrique des monstres types. Elle fabrique des hommes normaux. Il suffit de bien peu de choses pour que les monstres apparaissent dans ces hommes et se manifestent. Il suffit d'une simple panique, par exemple, l'incendie d'une salle de spectacle. Vous verrez des gens très normaux devenir des monstres, tout à coup. J'ai pris cet exemple-là. Il y en a eu d'autres, et nous sommes parfois épouvantés de voir de quoi l'homme est capable, l'homme tout à fait normal, l'homme que nous sommes à chaque instant. Ces monstres sont dans mon théâtre parce qu'ils sont partout, dans la vie, dans les rues, dans toutes les chambres autour de nous. Que dis-je, ils sont en nous.
Avec la farce des ténébreux, le désir de copulation occupe la scène et s'empare frénétiquement de tous les personnages. Cette œuvre incendiaire pourrait ainsi se résumer. Fernand d'Abcaude, puritain et homme de bien, veut se laisser mourir pour rejoindre au plus tôt sa fiancée défunte, Azurine. Un médecin est appointé pour lui annoncer l'approche de l'heureux événement. Un poète à gages prépare son éloge funèbre. Son valet l'entretient dans l'espoir d'un mariage extraterrestre. Mais ce trio, soudain lassé par ce jeu macabre, provoque une apparition du fantôme d'Azurine. Celle-ci commande à son fiancé d'aller consulter un médecin illustre chez lequel il se rend. En fait, d'Abcaude est conduit par les trois lascars dans une maison hospitalière où sa vertu et sa pudeur sont passablement violentées. Cette maison sert également de temple à une secte dite des ténébreux, dont le seul objet est la célébration du culte de Putregina, la reine de toutes les putains de Néerlande, morte depuis quelques mois. D'Abcaude sera contraint de chanter ses louanges après avoir reconnu avec stupeur sous les cagoules des ténébreux l'archevêque de la ville, le bourgmestre et le chef de la justice. Mais des révélations l'attendent encore, dont la plus violente est d'apprendre que sa pure fiancée Azurine et l'ignoble Putregina n'étaient qu'une même personne. Conscient d'avoir été berné depuis 20 ans par toute la ville, d'Abcaude cessera de souhaiter une mort anticipée et s'abandonnera aux joies libératrices auprès d'une fille compatissante. Cette pièce, dont la dernière réplique est « Chevillez-vous et ne décollez que pour mieux recoller, Dieu l'a voulu », est donc un hymne à la gloire de la fornication.
Il faudrait préciser d'abord, cette pièce est une farce. Il n'est qu'une farce et non pas une comédie de mœurs. Ensuite, vous semblez dire que c'est un spectacle volontairement érotique où la copulation sera le thème essentiel, mais c'est tout à fait faux. C'est tout simplement une satire du puritanisme et rien d'autre. Et s'il y a des scènes qui peuvent paraître scabreuses, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il ne s'agit pas du tout d'un spectacle destiné à faire scandale. S'il y a scandale, s'il peut y avoir scandale lorsqu'on jouera à cette œuvre, c'est parce qu'il y aura des gens désireux de faire scandale. Il faut croire que ça offre une volupté particulière, le scandale. C'est ce qui paye peut-être de l'exercice de la vertu. Dès qu'on ose prononcer certains mots, dès qu'on ose aborder certains thèmes, on devient licencieux, on devient un personnage effrayant, un corrupteur. Mais encore une fois, nous ne sommes pas d'accord et il semble bien que je sois amené ici pour me justifier. Je n'en ai pas l'habitude, je ne me justifie jamais. Pourtant, je vous dirai que mon dessein n'est pas de corrompre, n'est pas de faire l'éducation à rebours du public ou de prêcher une contre-morale, mais non, j'ai fait un spectacle. Et naturellement, il y a une idée conductrice, il y a un thème fondamental. Et pour une fois, il y a un thème joyeux, profondément joyeux. Je prêche une sorte de retour à l'instinct bien refoulé, bien dénaturé. Et c'est une intention charitable, puisque je veux indiquer à une génération qui se morfond et qui a peur de la vie, la seule voie par laquelle elle peut se sauver et retrouver sa condition d'homme.
Il demeure que dans cette pièce, vous faites dire à l'un de vos personnages, à Emmanuel, de la vertu vient une grande part des malheurs du monde.
La vertu des imbéciles, la vertu des hypocrites, voyons, celle qu'on enseigne et celle qu'on n'exerce pas. Les vertus fondamentales, celles-là, elles sont dans le cœur des hommes, et celles-là sont bienfaisantes, elles sont immortelles. Mais il y a la seule vertu dont le monde semble tenir compte, la vertu apparente, celle qu'on exhibe, celle qu'on a à la bouche, et celle qu'on ne pratique jamais. C'est de cette vertu-là qu'il s'agit, cela saute aux yeux, au début de cette pièce. Trouvons devant nous une société composée uniquement d'hypocrites, de simulateurs, de puritains.
Les puritains trouvent d'ailleurs peu de grâce devant vous. Vous n'aimez pas les apôtres de l'abstinence. Folial dira « Malheur aux chastes, ces impudiques sans geste ».
Naturellement, et croyez bien que les puritains ne soient pas des personnages historiques. Ils sont de tous les temps, de nos jours. Ils ont un style américain. Ils ont une Bible en poche. Ils ont des ciseaux pour couper. Et les films. Mais ils ont de très mauvais dessins. Ils font beaucoup de mal.
Écoutons un extrait du dernier acte de La Farce des Ténébreux. Fernande Abcaud est en présence d'Emmanuel, comédienne engagée pour le Bernet, mais qui, par pitié, cherche à lui venir en aide.
Il vous fallait guérir.
Et de quoi?
De votre vertu. Cette sale habitude.
Comme vous y allez, la vertu, source de tout bien.
Et de bien des maux. De la vertu vient une grosse part des malheurs du monde.
Qu'en savez-vous? Auriez-vous plus de lumière que nos théologiens?
J'en ai qu'ils ne possèdent pas, sans doute, puisque des plus considérables de vos puritains daignent prendre leçon chez moi.
Vous enseignez?
L'amour.
Cela s'enseigne, oui.
Cela s'apprend, oui.
En parole?
En action. Il sera grand temps que vous vous mettiez à l'étude, monsieur. Supporterez-vous que la ville continue de vous moquer?
La ville me moque.
Vous êtes réputé pour votre vertu, certes, mais pas comme vous l'imaginez en votre candeur. Les autres villes de Néerlande ont leur pucelle, la nôtre a son puceau. Vous survivrez.
Oh, Capranche, mais que faire pour mon honneur?
Il faut que la ville sache pour votre honneur que vous êtes homme.
Ne le suis-je pas? Je porte culotte.
Depuis quand les culottes font-elles preuve de virilité, sinon rabattues? Je résume, vous n'êtes pas homme car puceau.
N'est-ce pas là mon honneur, précisément?
Là se trouve votre infortune. Ce que vous nommez honneur n'est que nuisance, une infirmité même qui vous ridiculise.
Mais est-ce ma faute? Comment faire pour me réhabiliter?
Laissez-vous instruire.
Seigneur Tout-Puissant, elle veut m'apprendre le péché.
Tant mieux si vous tenez l'amour pour un péché. Après la jouissance du mal accompli, vous aurez les affres du repentir, ce qui est une façon de revivre sa faute.
Mais il ne s'agit pas de péché, mademoiselle. Je refuse. Je me dois de résister. Je résiste. Non, non, je vais m'évanouir.
Trop tard, mon cher. Hé, vous n'appelez pas les gendarmes?
Oh, je vous reconnais. Vous êtes la sirène. Ne me perdez pas. Gardez votre robe, je ne supporterai pas.
Je suis la sirène, voyez. J'ai emporté mes seins et ma croupe.
Est-ce moi d'Abcaud violentée par une...
Pas de discours, couillon.
Oh, je veux partir.
En chemise.
Laissez-moi au moins cela.
Rien que la peau, oust.
Cette pièce pourrait inquiéter les âmes prudentes. Certains passages, il est vrai, ne supporteraient pas la représentation.
Les âmes prudentes, est-ce qu'elles vont de théâtre, d'abord? Et puis les âmes prudentes... Nous voici dans ce Paris où il y a des spectacles où on montre des femmes nues. Moi, j'appelle ça vendre de la fesse. Et on ne dit rien. On y va, on n'y va pas, mais enfin, c'est une chose admise. Et dès que dans une pièce, une farce, on prononce un seul mot qui choque, c'est un scandale. Alors qu'il y a tant d'œuvres que j'appelle moi délétères, vraiment perverses, et qu'on accepte, qu'on applaudit. Je pourrais en citer, mais j'aurais l'air à mon tour de faire de la morale, et ce n'est pas du tout mon genre.
Toutefois, ne vous paraît-il pas scabreux de présenter l'archevêque, dans l'affaire des ténébreux, occupé à réciter dans une pieuse attitude des litanies sacrilèges à la gloire de Putregina?
Je vous surprends, vous avez trouvé dans le tableau, dans l'ensemble, un petit détail. Et vous le grossissez, et vous dites, voilà, me voilà, la preuve du délit. Mais non, il y a à ce moment-là, dans tout cet acte, un carnaval, auquel participent tous les individus marquants de cette ville imaginaire. On y trouve le commissaire en chef, on y trouve le gouverneur, on y trouve les grands banquiers, on y trouve les professeurs de l'université, on y trouve même le président du Saint-Synode, l'évêque en personne, mais oui, et puis le général. Mais vous voyez bien que c'est une allégorie, que tous ces personnages sont symboliques. Ces gens-là participent à une société secrète qui n'est somme toute qu'une compagnie joyeuse, mais comme il y en a de nos jours autour de nous, eh bien ce n'est rien d'autre, les ténébreux, ce sont des gens qui dans la vie s'ennuient, courent avec un masque officiel conformiste, un masque de vertu. Alors ils se rassemblent entre eux, qu'ils cessent d'être ces hypocrites ennuyeux, qui font leur métier, puis qui se retrouvent dans des salons où tout le monde baille. Ils cessent d'être les puritains le soir pour quelques heures, comme dans un club. Ce n'est rien d'autre que cela. Et cet évêque que vous avez vu, qui vous a scandalisé, mais je peux le remplacer par n'importe quoi sans que la pièce et que cette scène perde son sens. Et cette cérémonie qui peut paraître offensant le sacrilège, mais c'est tout simplement une moquerie des sociétés secrètes et des gens qui doivent s'assembler parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils ne sont pas capables de vivre seuls. C'est le vrai visage des puritains que je montre sous ces cagoules et sous ce masque. Mais je vois que on se scandalise vite en France, dans la France d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une vague de vertu?
Peut-être. Cette caricature, que certains pourraient trouver sacrilège, se retrouve en divers moments dans votre œuvre. C'est l'épouse Jaïr qui rêve que sa fille est violée par le vicaire, celui-ci voulant savoir si elle est morte ou vive. Ces gens inérémaux crachant l'hostie qui l'étouffe. Et certains appellent sur vous l'excommunication majeure.
Eh bien, soit qu'il l'appelle, je doute fort qu'il l'obtienne, parce qu'enfin, laisser l'autorité qui soit habilitée à cela ne dit rien. Alors, c'est que je ne suis pas en défaut. Et vous le savez très bien. D'autre part, vous me semblez avoir le dessein de défendre les gens d'église, mais je ne les attaque pas. Pas plus que dans l'histoire de l'art, les tailleurs d'images, les peintres ont représenté des moines, des béguines dans des positions singulières. Voyez par exemple le portail, le tympan, une cathédrale. Vous voyez certains monstres, des monstres coiffés d'une mitre. Mais on osait dire alors ce qui était la vérité, que ces porteurs de mitres, de creuses, de soutanes, de cucules, de robes, de scapulaires, étaient des hommes, étaient des femmes tout simplement, et ça n'a pas changé. Mais je ne touche pas aux institutions, je ne touche pas aux dogmes, il n'est pas question de religion à aucun moment. La religion, je la respecte. Le fait que je mets à la scène un ecclésiastique n'éprouve pas que j'ai une haine particulière de cette sorte de gens. Si je m'écoutais, mais je dirais même que j'ai de la sympathie pour eux, puisque j'ai vécu avec eux, je les connais très bien. Seulement, ce sont des personnages type le prêtre incarne quelque chose que je rencontre sur mon chemin fréquemment. La morale... qui n'est pas mon ennemi précisément, mais la morale qu'on me jette dans les gens un peu fréquemment, alors je suis obligé de m'occuper d'elle. Je m'en occupe aussi bien que possible et je réplique par des œuvres. je montre les moralistes dès lors. Mais comme j'ai montré les médecins, comme j'ai montré différents types d'humanité ridicules ou malfaisants, c'est la fonction du théâtre, montrer des types d'humanité.
Revenons au personnage féminin, voulez-vous, au personnage féminin de votre œuvre. La femme y apparaît comme un instrument de plaisir, une chienne lubrique. Nul ne trouve grâce devant vous, sinon Blandine, que d'ailleurs vous faites mourir dans une extase assez équivoque.
Croyez-vous que ce soit elle que vous le dites? J'ai grand envie de rassembler toutes les femmes de mon théâtre et de faire un examen. J'en vois déjà qui ne sont pas ces chiennes lubriques, ces folles et ces hystériques. Il y en a bien d'autres.
Voulez-vous que nous précisions? Accepteriez-vous de dire que la plupart de vos personnages féminins sont des jeunes filles qui attendent la révélation de la chair et des femmes âgées qui, elles, sont les chiennes lubriques?
Je vous ai dit que les jeunes filles, les femmes normales, sans visage, sans passion, ne m'intéressent pas. Le théâtre est la peinture des passions, vous le savez. Pourquoi irais-je chercher des types insignifiants dans la présence ennuierait tout le monde pour qu'il y ait à tout prix dans mon théâtre des femmes rassurantes et reposantes? Je ne sais qu'en faire, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pour moi dans ce monde que des folles, que des monstres, que des sorcières. Il y a autre chose aussi dans mon théâtre. Mais précisons, donnez-moi des exemples. Parlons de quelques-unes de ces femmes.
Si vous voulez, parlons de Marguerite Armstein et de Purmeland d'Osterland, qui, elles, sont les vierges qui attendent de la chair et de la révélation de la chair.
Bon Dieu, oui, comme toutes les jeunes filles, comme toutes les femmes, c'est la grande affaire, encore une fois, ici-bas. Nous savons très bien que l'érotisme est la préoccupation constante du jeune homme, de la jeune fille, dès que l'instinct s'éveille, et même jusqu'à la mort, c'est la dernière préoccupation de l'homme, puisque l'Église nous enseigne que c'est au lit d'agonie que le démon devient le plus pressant, le plus dangereux. Qu'est-ce que cela veut dire, voyons?
Admettez-vous que la femme soit l'incarnation du démon?
L'Église l'enseignait et l'enseigne encore. Elle est le véhicule du péché, et d'ailleurs elle est très bien armée pour être cela. Le démon est peut-être très laid, mais si la femme est la servante du démon, elle est bien agréable à considérer. Je comprends qu'on succombe si souvent. Mais ne plaisantons pas. Satan s'est servi d'Ève pour faire succomber l'âme. Il en reste quelque chose, sans doute. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes soient des êtres coupables, des pécheresses.
Pantaglaise, l'un de vos personnages, avoue: je suis quoi? Un raté parce qu'il me manque l'amour. Avez-vous donc vraiment aimé les femmes, ou bien n'ont-elles pas éveillé votre haine par l'attrait qu'elle donnait au péché?
Il n'y a pas de haine chez moi. Pourquoi voulez-vous que la haine qui éclate dans ce théâtre à l'égard de la femme soit ma haine, soit celle de l'auteur à l'égard de la femme, qui ne m'a rien fait? Mais non, je ne la charge pas, ce n'est pas moi. Ne me rendez pas le responsable du scénario. Le scénario n'est pas forcément l'expression d'un drame ou d'une comédie que j'ai vécue et n'est pas une vengeance que j'exerce.
Sans doute, mais ce scénario, c'est vous qui le créez, c'est vous qui lui apportez son développement.
C'est certain que je m'exprime très souvent dans le truchement de mes personnages, mais dans le cas qui vous intéresse, ne croyez pas qu'il s'agisse d'un sentiment particulier. Si je vous disais comment je vois la femme, le rôle que je lui attribue dans l'existence, vous seriez très étonné. Cela ne correspond pas du tout à ce que l'on pense quand on voit mes pièces.
Mais voilà ce qui nous intéresse.
Ah non, ça c'est un sentiment privé. Je crois que ça n'intéresse que moi. Et les gens qui me touchent de très près.
Si vous l'entendez ainsi, peut-être, mais il nous paraîtrait intéressant justement de connaître votre sentiment profond, puisque vous dites que le sentiment que vous exprimez dans vos pièces n'est pas le vôtre.
Oui, ça ressemble un peu à une confession. On ne se confesse pas devant les foules. La confession publique, c'était bon pour les grands siècles chrétiens, les premiers siècles chrétiens. Mais je vous dirais que j'accorde beaucoup beaucoup à la femme, et je la place très haut. Je pourrais, comme chrétien de Troie, dire ce que tant d'hommes autour de nous répètent à voix basse quand ces dames sont parties. Putain chute, putain hête, et putain restauré. C'est vrai, oui, oui. Mais précisément, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est cette fonction éternelle. Que ce soit sous les formes légales du mariage, que ce soit sous d'autres formes plus dangereuses, la femme reste la grande séductrice, et c'est ce que j'admire précisément. Je lui accorde autre chose pourtant. Elle a un rôle plus mystérieux, plus noble. Et ce rôle n'est pas tant de perpétuer la vie, c'est très beau, c'est dramatique, c'est pathétique, mais de retenir l'âme sur la terre, à la terre, en lui donnant des devoirs profonds. Elle serait non seulement cette gardienne classique du foyer, mais il serait aussi une sorte d'ange gardien tel que le christianisme l'a très, très gentiment proposé par la suite. Car l'homme, c'est vrai, livré à lui-même, est un aventurier, un guerrier, un chasseur. Il s'en va, mais reviendra-t-il ? Je vous ferai ici une confidence. Ce microphone a l'air si sage et si gentil, j'ai l'impression que ce sont de très braves gens qui m'écoutent et qu'il n'y a pas de puritains, qu'il n'y a pas de ces êtres mesquins comme ceux qui vous font poser ces questions insolites. Je vous dirais que si tout ce théâtre existe, c'est bien à cause d'une femme aussi. C'est parce qu'un jour j'ai cessé de me promener dans le monde, d'être un aventurier, et j'ai trouvé plaisant de m'asseoir à une table, dans une chambre, devant du papier. Cette femme m'a donné le silence et l'ordre autour de moi, l'ordre qu'il fallait pour pouvoir écrire, parce qu'on n'écrit pas dans le désordre, on ne fait rien dans le désordre, on ne fait qu'improviser, c'est tout. Vous voyez donc que je ne médis pas de la femme, je sais qu'il s'en trouve beaucoup dont le rôle est admirable.
Il faut noter que l'érotisme est d'ailleurs constamment lié dans votre œuvre à la cruauté. La Rose, le bourreau de Hop Senior, confiera avec un doux sourire à Marguerite Arnstein, la volupté n'est qu'une torture abrégée. Si vous le voulez bien, nous vous demanderons quelques éclaircissements à ce propos.
C'est un peu scabreux. Mon rôle de poète est de percevoir dans un éclair certaines vérités humaines et de dire cela dans une forme synthétique comme je l'ai fait. Les médecins vous en parlerait de cette cruauté qui accompagne le geste de l'amour, qui accompagne tout érotisme et même le rêve érotique, qui est bien plus important que l'acte érotique et qui le prépare. Cette cruauté, nous la constatons dans le règne animal et nous ne sommes pas très différents, mais il y a dans l'air aussi des témoignages de cette proximité de deux sentiments impérieux, excessifs, qui nous effrayent et qui pourtant sont permanents. Prenez par exemple les œuvres si singulières d'un peintre allemand, Lucas Cranach, qui peint dans ce goût de la Renaissance, qui flattait les grands seigneurs d'alors et les chanoines trop civilisés de ce siècle-là, les latinistes, qui flattaient leur goût de la mythologie, mais seulement Cranach a exprimé autre chose que des fables grecques. Nous voyons surtout dans ces petits tableaux à fond noir et bleuâtre, violâtre, nous voyons des femmes nues et des hommes nus. Les femmes sont exquises et étranges. Elles semblent nubiles à peine, elles sont mièvres et indifférentes. Les hommes, par contre, sont athlétiques, souvent barbus, on sent qu'ils sont très jeunes aussi. Or, toutes ces petites scènes représentent des combats. Les hommes se battent, armés de bâtons, se battent toujours. Et les femmes attendent. Elles attendent la fin du combat. Nous savons que la femme, telle qu'elle surgit du troupeau humain, telle qu'elle sort de la foule, se précipite vers le vainqueur, vers les soldats, les porteurs de feu, ceux qui ont des armes dans les mains, qui sentent le crime, pour tout dire, et qui ont sur eux le parfum du sang. Nous savons que ça les trouble et que ça les touche. Nous savons aussi par le sport que les femmes, non pas par la raison, mais à travers les filtres des sens, comprennent la cruauté, à croire qu'elles sont cruelles. Et peut-être le sont-elles, et leur manière, dans un match de boxe, on se casse la gueule, où il y a des poids lourds, où c'est sérieux, où l'un des boxeurs n'est pas le client. Voyez-le, c'est assez singulier, et cela porte à réfléchir. Et pour en finir, laissez-moi vous faire une confidence qui m'amuse un peu. On reproche à mon théâtre, en général, d'être violent. Violent, je le concède, oui. Bien que je sois un homme très pacifique, on reproche à ce théâtre d'être obscène, oui, c'est le mot, d'être obscène, de dire les choses brutalement, très brutalement, de montrer des situations scabreuses. Oui, oui, tout cela est vrai. Et pourtant, si je me considère moi-même dans le passé, j'étais un personnage pudique, pas un puritain. J'avais 18 ans et je rougissais encore. Je craignais les femmes et je m'en écartais. Je passais mes jeudis et mes samedis au concert populaire. J'y allais pas avec une amie, une petite compagne, ou pas du tout. Je me serais senti humilié. Je préférais la solitude. Eh bien, je revois ce jeune homme pudique et je suis resté seul, malgré tout ce que j'ai écrit. Et peut-être écrirai-je un jour la comédie ou la tragédie de la pudeur.
Le Club d'essai de la radiodiffusion française vous a présenté, avec le concours de l'Institut national belge de radiodiffusion, Images et visions d'un solitaire, confidence de Michel de Gueldevold recueillie par Roger Iglesis. Au cours de cette émission consacrée à l'érotisme, vous avez pu entendre des extraits de La farce des ténébreux, interprétés par Yvette Etiévant et Jean Daguerre. Production de Roger Iglesis et Alain Truta. Dimanche prochain, à la même heure, Michel de Gueldevold vous dira quelle place tient la cruauté dans son théâtre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 4, Haute Fidélité, le 2 décembre 1951.
Etienne.